Sure.
J'ai pris un instant là, parce que j'avais appris ce matin que hier c'était le 94e anniversaire de Maizumi Roshi. Il est mort, mais que ce qui est le fondateur de notre lignée en Occident. Je l'ai invité de venir avec nous ce matin pour son anniversaire. J'ai regardé la photo qui accompagnait ce message que j'ai reçu et j'ai dit, bah, dis donc, il ressemble à son fils quand même. Hein. Qu'on connaît son fils, c'est mon professeur, notre professeur de Qigong. Et il habite dans le centre zen d'Anna. Bien que, c'est pas un pratiquant zen, c'est plutôt un adepte de Qigong. Donc une pensée pour lui aussi. Je les invite tous les deux d'être avec nous là ce matin. Alors depuis hier, donc pour ceux qui n'étaient pas là et vous êtes quelques-unes qui n'étaient pas là hier, c'est pas grave, hein, c'est pas d'importance, mais je rappelle juste qu'on avait parlé de ce qu'on appelle l'esprit original dans le zen, qui est notre esprit avant tous les concepts, avant tout ce qu'on peut fabriquer, avant toutes les dualités. C'est cet esprit c'est là où réside, où qui est notre sagesse innée, notre véritable être. C'est avant qu'on ait rempli avec les contenus. Et si on regarde ça de l'autre côté, c'est tous les contenus. Ça contient tous les contenus. C'est le contenant qui contient tous les contenus. Quelque chose comme ça. Donc c'est à la fois vide et plein. Donc on a parlé de ça hier. Et ces paroles fondateurs du zen qui sont que c'est un enseignement qui est en dehors des sutras, qui n'a pas à voir avec les rites, les rituels, qu'est-ce que j'avais dit, les autres points, et ça pointe directement au cœur humain. Et puis après que j'ai réfléchi à ça depuis hier, je me suis dit, oui et non, dans le sens que c'est pas vrai que c'est en dehors des sutras. C'est en dehors de le dogme des sutras, le canon des sutras officiels, les paroles considérées comme sacrées. Des rites sacrés, comme on avait cité Bodhidharma, qui disait « rien de sacré ». Il peut dire ça parce qu'il sait que tout est sacré. Donc, rien n'est sacré parce que tout est sacré. Et du même, quand on dit que c'est en dehors des sutras, je voudrais vous expliquer pourquoi je dis que c'est en dehors des sutras convenus. Mais ce n'est pas en dehors des sutras, parce que je vais expliquer ce que je voulais dire par ça. Parce que ça m'avait frappé pendant l'assise, quand j'ai dit ça. C'est un peu... Donc cet esprit qui est hors du temps, hors d'espace, cet esprit originel dont on a parlé... se vit, et on a touché ça hier aussi, se vit, se manifeste ici, dans un espace, dans l'espace précisément ici, dans le temps précisément maintenant, avec tous les détails uniques et spécifiques de chacun à cet instant, dans ces circonstances, etc. C'est ce qu'il disait, Bodhidharma, quand il disait ça pointe vers le cœur même de l'être humain, dans la vie même, ici maintenant, de chacun. Que ça ne réside pas à cette vérité absolue qu'on recherche, ça ne vit pas dans un sutra, dans un texte sacré, ou dans un espace sacré, ou dans un rituel sacré. Parce que ça réside partout. C'est partout, dans toute chose qu'on fait. Alors pour ça, nous avons cette image que j'emprunte en partie de Bernie Glassman, qui était un de mes maîtres, qui est de tissage. Et je ne sais pas si j'ai parlé de ça déjà ici ou ailleurs, je ne sais pas. Il faut savoir que sutra, c'est comme en français, soupure, ça a la même origine que c'est de coudre. En portugais, in Portuguese, what is it? To sew is...
Cousir.
Okay, you don't have something like suture, like when you have a cut?
Si, suture.
Suture, that's right, yeah. It has the same root. L'étymologie de ça, c'est la même chose, et c'est du sanskrit même. Qu'est-ce que j'ai noté pour sanskrit? Oui, le fil, le corde, sutra. Alors, donc, c'est pour ça que cette image de tissage, de tisser, est très intéressante. Pour tisser, il faut la chaîne, qui en anglais dit la warp. La chaîne qui c'est les fils verticales. Et pour ça, il faut, et ça c'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler l'absolu dans notre jargon. Pour ça, il faut des fils qui sont réguliers. Fil, c'est masculin ou féminin?
Masculin.
Donc, régulier, forte, simple, sans nœud. Il faut qu'ils n'ont pas de variation. Il faut des fils vraiment qui puissent tolérer les mouvements qui vont venir qui vont soutenir le motif, le dessin, les couleurs qui vont venir. Pour le tram, qui sont les fils horizontal. Alors là, c'est plutôt le relatif. Ça correspond à ce qu'on appelle le relatif dans notre jargon. Et ces fils, le plus varié, le plus merveilleux, en fait. C'est coloré, c'est varié. Ils vont donner le motif, l'effet, la texture, le dessin, la complexité au tissage. Ça, c'est la diversité. Hier, on a parlé de ça. L'unité, c'est ces fils horizontales, verticales, qui sont partout, toujours, sans varier. Ça, c'est cet esprit original, on peut dire. Et puis, nous avons la trame qui est horizontale et qui va donner toute la diversité imaginable pour créer le motif, le dessin, la vie de tous les jours. Et donc, avec ces deux, l'absolu et le relatif, ensemble, entremêlé, entrelacement de ces fils, c'est le tout, c'est l'unité, c'est la totalité. Et donc, on ne peut pas séparer les fils, on peut les séparer, mais quand ils sont ensemble, tissés ensemble, ils forment une unité, ils forment un tout. Alors, les fils, donc, les sutras, ils traversent tout. Que ce soit vertical ou horizontal, parce que les deux sont les fils. Et ils traversent tout. La vie, c'est le tissage et c'est fait par le vertical et l'horizontal. Donc, dire que cette pratique, c'est en dehors des sutras, c'est les sutras. La vie, c'est les sutras. Le sutra, c'est tout. Les sutras, c'est tout. C'est pas juste les textes qu'on a dans un petit livret et on dit c'est sacré. Et d'ailleurs, nous, on ne les traite pas vraiment comme sacrés parce qu'on les met par terre sous notre tapis. C'est censé jamais toucher par terre, ces livrets. Jamais. Et il y a une façon particulière de les tenir.
Et nous, on... Kinin, c'est Walking Sutras?
Oui. Alors ça aussi, c'est très intéressant. C'est bien que tu te souviennes de ça. Parce que, oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que ce qu'on fait, les méditations marchant, en japonais, ça s'appelle Kinin. Et ça veut dire sutra marchant. C'est extraordinaire. Nous sommes les sutras. Donc, dire que c'est en dehors du sutra, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas ça que Bodhidharma a dit. Il a dit, c'est en dehors des écritures. Ils ne dépendent pas des mots et des lettres. Donc, et puis, c'est interprété... comme on interprète tout, et donc les fondamentalistes disent que c'est en dehors des sutras. Parce qu'ils disent que les écritures, c'est les sutras. Mais non, c'est tout. C'est en dehors parce que c'est ça, disons. Et donc, la respiration, c'est le sutra. Tous les discours de cette... on dit le « one body » en anglais... Le corps unique qui est l'univers, tous les discours de l'univers sont les sutras. C'est les sutras. Il y a un passage qui m'est cher dans le roman de James Joyce, Ulysse, où un des personnages principaux, qui curieusement, il y a trois personnages, il y en a un qui représente, qui manifeste plutôt l'absolu, il y en a un autre qui représente plutôt le relatif, et puis il y a une autre qui représente la totalité. Alors, celui qui représente l'absolu, disons, c'est Stephen, qui est un peu un alter ego de Joyce, écrivain, un jeune homme qui est perdu dans ses pensées, l'intellect, qui est à la recherche de le mot qui est connu de tout homme, et il cherche un père, etc. Bref. Il est enseignant dans un collège de garçons à Dublin. Et à un moment, quand les garçons sont dans le cours, dans la rue et dans le cours, à jouer au foot, Stephen est en discussion avec son directeur de collège, ou son, je sais pas comment on dit ça, c'est PE, ouais. Et qui est très dogmatique, catholique. Et donc, c'est une discussion théologique. Et c'est Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, tout ça. Et Stephen n'est pas d'accord. Et donc, à un moment, le directeur lui dit, « Alors, c'est quoi Dieu ?» Et à ce moment précis, dans la rue, les garçons, quelqu'un a marqué un but. Et donc, il y a des cris dans la rue. Parce qu'il a marqué un but. Et Stephen, quand il dit, qu'est-ce que c'est Dieu? Stephen dit, un cri dans la rue. Qu'est-ce que c'est le sutra? Un cri dans la rue. Qu'est-ce que c'est le sutra? Les oiseaux qui chantent. Qu'est-ce que c'est le sutra? Les arbres, le tissage de ces arbres merveilleux dehors. Qu'est-ce que c'est le sutra? Les fourmis dans nos bols. Enfin, tout est sutra. Il n'y a rien qui n'est pas sutra. Donc dire que ces enseignements sont dehors des sutras, je suis désolée, je vous ai trompé hier. et je tenais à préciser ça ce matin. il y a et aussi cette image, cette métaphore du tissage est aussi merveilleux parce que si on sépare les fils de la chaîne, les fils de la trame, il n'y a pas de tissage. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ils sont entièrement dépendants l'un de l'autre. Et c'est la même chose de ce qu'on appelle l'absolu et le relatif, ou l'unité et la diversité. Ou de cet esprit originel, qui est avant, et l'esprit discursif qui voit toutes les différences et qui essaie de savoir ce qu'il faut faire, comme on a discuté hier. Inséparables. On ne peut pas les séparer. Ils sont un. Et donc, ils existent uniquement en relation l'un par l'autre, par rapport à l'autre. Et notre pratique, c'est ça. C'est que souvent, quand on est tellement préoccupé et tellement... On incarne tellement le monde relatif, de toutes les différences, les choix bien ou mal, les opinions, les positions, les activités, pour s'affirmer, pour gagner du pognon, pour... manger, qu'est-ce qu'on va manger, j'aime ça, j'aime pas ça, toutes ces choses-là, on est tellement occupé avec ça qu'on passe à côté de cet esprit avant, j'utilise même ça, avant, cet esprit originel, qui, dans lequel il n'y a pas tout ça. Et je dis dans lequel, et parce que c'est comme si ça contient quelque chose, mais c'est juste que... comme j'ai dit, David Lynch, il dit que c'est transcendant. Mais son dessin fait que c'est fondationnel. Donc, on ne peut même pas le situer. Je dis avant, parce que c'est avant qu'on a mis toutes les choses dedans, comme j'ai dit hier. Et il y a cette notion de revenir donc à quelque chose primordial, essentiel, intrinsèque, disons, quelque chose comme ça. Mais en fait, ils sont un. Et on ne le voit pas. On est occupé par le relatif, la diversité, les opinions, les dualités. Et donc, on ne voit pas l'autre aspect de notre être, de la réalité, des choses telles qu'elles sont. Si par grâce, à un moment où on aperçoit cet autre, cet absolu, cette perfection, cette complétude, les choses telles qu'elles sont, sans tout le reste qui les couvre habituellement, on va dire « Ah, c'est ça !» Oui. Et on va vouloir ne plus du tout savoir du reste. On ne veut pas du tout, on dit ça ne fait rien si je n'ai pas d'argent, ça ne fait rien, je mange n'importe quoi, ça ne fait rien si ça n'a pas d'importance, si je ne suis pas gentil avec quelqu'un, il n'y a personne qui peut être méchant avec quelqu'un d'autre, j'exagère, mais on va dans ce sens-là, dans l'absolu. Si on ne perd pas de vue le relatif, les différences. Il y a des différences, comme on avait dit hier. On peut voir, que c'est David qui avait expliqué ce que c'était sa méditation, où dans un premier temps, tout était un. Il regardait les arbres, les oiseaux, tout était un. Et il regardait cette chaîne verticale, la chaîne verticale de l'univers, de l'être, de la vie. Tout est un, pas de variation, tout est. Et puis à un moment, il a décidé de changer son regard, je répète ce qu'il a dit, hein. Et il a vu la diversité. Et donc, il voyait là la trame de tout, de la quantité de, des oiseaux et les différences infimes dans leurs plumes, dans leur façon de voler, dans leur façon de manger. C'est lui qui a parlé de ça. Dans le coloriage de, des oiseaux. Et donc, notre pratique, c'est de voir les deux. Et comment on fait pour ne pas perdre de vue le 1 quand on est occupé par le 2, par le multiple, disons. Et c'est ça notre pratique, c'est d'approfondir ça, cette réalisation. D'abord, notre travail, c'est de voir l'unité, de revenir à cet esprit original. On doit passer par là parce que on est tellement perdu dans l'autre aspect qu'on doit revenir à ça. Mais, comme on dit dans une des sutras officielles, rencontrer l'absolu n'est pas encore l'éveil. Parce qu'on est tellement préoccupé par cette idée d'éveiller, l'éveil, etc. Ce n'est pas... Très bien, on a vu cet aspect. Mais si on se fige là, on ne voit pas la totalité. On voit juste une partie de la réalité de notre être et de, du monde, de l'univers. Et donc, notre pratique, c'est de, effectivement, c'est l'origine de notre réalisation de notre vie pleinement, c'est de voir cet absolu, cette unité. Et après, il faut revenir et vivre ça pleinement, ici maintenant, dans le monde des poussières, disons, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui, on vit, comme j'ai dit au début, on vit ce qui est hors du temps et hors d'espace, pleinement dans le temps et l'espace. Mais ce n'est pas comme avant. Quand on a réalisé le hors temps et hors espace, et on vit ça ici maintenant dans le temps et l'espace, c'est pas de la même façon qu'on a vécu ça avant de voir le hors temps et hors espace. Notre vie est habitée par cette expérience de l'autre aspect de qui, l'univers, de qui on est. Alors, et hier on avait parlé de, j'ai mentionné Gertrude Stein qui disait quand tu arrives là-bas, tu vois qu'il n'y a pas de là-bas. Et donc ça fait penser à cette terminologie, cette mot qu'on a qui est encore un titre d'un des sutras officiels, le Prajna Paramita Sutra. Donc c'est le Prajna, c'est la sagesse, et Paramita, c'est la perfection. La sagesse, perfection de sagesse, disons. Mais en fait, le mot paramita, ça veut dire sur l'autre rive. Donc, on est dans la dualité qu'il y a, on est ici, on est sur cette rive. Mais quand on a réalisé l'unité, le relatif et de l'absolu, de l'unité et de la diversité, esprit originel et l'esprit de tous les jours, esprit ordinaire, on dit que c'est le nirvana et on est sur l'autre rive. Et toute notre pratique est visée pour arriver sur l'autre rive. Mais en fait, il n'y a pas d'autre rive, comme il n'y a pas de là-bas. On y est déjà. Et il y a cette blague qu'on... Blague zen, quand on raconte parfois, qui est, il y a un type sur arrive, et qui veut aller sur l'autre. Et il voit quelqu'un là-bas, et il dit, hey, aidez-moi, il n'y a pas de moyen de traverser. Et l'autre lui crie, tu es déjà là. Il n'entend pas, et donc, tu es déjà là. Tu es déjà là. Tu es déjà sur la rive. Tu n'as pas à aller sur une autre rive. C'est ça la perfection, c'est que tu es déjà là. C'est déjà ici. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais ça, on peut réaliser ça quand on a touché cet esprit originel et on est revenu dans la vie de tous les jours ordinaire. J'ai vu récemment quelqu'un disait que plutôt que... parce qu'on part souvent dans les zones de l'esprit ordinaire. D'ailleurs, il y a Thomas qui a son nom. Adrien, c'est Original Mind. Et Thomas, c'est Ordinary Mind. Donc, l'esprit ordinaire. Et souvent, c'est, on parle de ça. Il y a des courants autour de l'esprit ordinaire, etc. Et donc, quelqu'un, je ne me souviens plus du tout qui c'est, qui parlait de ces deux esprits et qui disait, c'était plus précis de dire c'était en anglais, donc c'était originary mind. En français, ça ne marche pas parce que originaire existe déjà. Mm-hmm. Non? Originaire existe. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Donc, originary n'existe pas en anglais. C'est le mélange des deux. Parce que quand on dit esprit originel, ça donne un sentiment de quelque chose, une origine, un début, une source, quelque chose d'originaire. Et ordinaire, ça nous donne cette impression que c'est juste l'esprit de tous les jours, rien de spécial à faire, rien de spécial à penser. Mais en fait, c'est les deux tissés ensemble. On peut dire que c'est comme la chaîne et le tram. Originel, c'est ça, et ordinaire, c'est ça. Et j'ai en pleine conscience donné ces deux noms à ces deux hommes parce que ça appliquait à toutes les deux dans mon esprit. Comme j'ai expliqué hier, je m'assois avec et je pense, etc. Et c'est très précis, les deux. C'est pas la même chose. Bien que on peut croire que c'est comme c'est un, c'est la même chose. Mais donc ça veut dire que tous vos noms sont le même. Parce que c'est un. Et ça, c'est la chaîne. Mais le tram, c'est que chacun est différent, comme on l'a dit hier. Oui, donc, c'est surtout ça que je voulais dire. J'avais vu une... qui n'a peut-être rien à voir, mais si, qui a à voir, que parfois on dit, on peut dire que cette vie relative, cette vie de diversité, cet être est merveilleux, devient merveilleux, disons, quand on voit ce lien inséparable avec cette chaîne, j'hésite à utiliser le mot vide, cette chaîne sans caractéristiques, cet esprit originel qui n'a pas de contenu, qui est vaste, qui n'a pas de, qui n'est pas encore divisé, séparé, etc. Et donc l'expression que j'ai trouvée, je n'ai pas noté qui a dit ça, ça peut traduire en français le véritable vide de l'être merveilleux. Ou l'être véritable, l'être merveilleux du véritable vide. Donc dans le deuxième, l'être merveilleux, c'est cet être qui est merveilleux dans le véritable vide, disons. Et le premier, ça ne marche pas de la même façon en anglais, mais peut être le véritable vide de l'être merveilleux. L'être, dans le sens pas cet être, mais être comme verbe. J'aime beaucoup jouer avec la langue. Étant poète, bien sûr, donc j'aime beaucoup jouer et tisser. Ne pas perdre de vue les sens originels, mais les déformer, faire les cut-up, disons que prendre un mot d'ici et le mettre avec cela, etc. Parce que c'est important de ne pas perdre de vue. Vraiment, d'être vertical, qui tient tout. Et puis tisser avec. Et dans les tissages, on peut mettre les plumes, on peut mettre des bouts de bois, on peut mettre tout un tas de choses. Mais il faut que ça tient. Je dis tout ça n'ayant jamais vraiment fait du tissage. Donc, je sais pas. Mais j'ai vu faire et j'ai vu comment ça se fait. Et j'ai discuté avec Anna, qui n'est pas là, une portugaise, qui fait beaucoup de tissage. Aussi avec Brigitte, que certains de vous, d'Anna, le connaissent, qui faisait du tissage au Guatemala, je crois. Mais je dis que je ne fais pas de tissage. Je vis et donc je tisse. C'est pas possible de ne pas tisser si on vit. C'est ce que je voulais préciser. Je crois que... Est-ce que vous avez des partages, des commentaires, des questions sur ça ou sur hier ou d'autres choses?
J'en ai une. Là, c'est la question qui me vient. Est-ce que la compassion, ce serait l'entremêlement entre ce fil, entre l'absolu et le relatif? Est-ce que ce serait l'entremêlement, l'acte de la compassion, en fait, l'action?
Ça appartient à le monde de l'activité, qui est le monde relatif, qui donc est la trame, la compassion. Ça, dans l'absolu, il n'y a pas de compassion. Par contre, quand on a eu cette expérience de l'esprit originel, on a eu une expérience de l'unité de toutes choses, notre activité, quand on revient, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de va-et-vient, va être... disons que la sagesse qu'on a expérimenté, qu'on voit, qu'on expérimente dans cette intrinsèque sagesse qui est notre véritable nature, quand ça exprime dans la vie de tous les jours, ça va être l'action compassionnée. La compassion appartient véritablement à ça.
Oui. L'action du bodhisattva.
Oui, donc dans le zen, nous avons cet archétype qui est, qu'on appelle le bodhisattva, qui est quelqu'un qui est habité par cette vue, cette expérience, et qui agit avec compassion pour amener les autres sur l'autre rive, bien qu'il n'y ait pas d'autre rive. Mais lui, il sait ça, ou elle sait ça, mais les autres ne savent pas ça. Et donc, ils agissent avec compassion pour les accompagner vers l'autre rive. Et je reviens à Joyce, dans son livre, l'archétype du Bodhisattva, c'est Léopold Bloom qui est le personnage principal. Je sais pas si quelqu'un est familier avec Ulysse, mais c'est vraiment, vraiment illuminant. Hein, comme livre. Et donc, il traverse la ville de Dublin. C'est tout le livre, 800 pages, se déroule pendant 24 heures. Et il traverse la ville de Dublin en faisant des actes de bodhisattva tout le temps. Et notamment, il cherche une telle recherche de Stephen pour l'amener à l'autre rive, en fait. Pour qu'il trouve qu'est-ce que c'est le mot qui est connu de tout homme. Vous pouvez peut-être deviner, mais peut-être pas. Et par un acte de compassion, il montre à Stephen ce que c'est, le mot connu de tout homme. Et moi, j'invente rien, hein. C'est dans le livre de Joyce, ça. Et le personnage qui représente donc le tout, la totalité, l'unité, c'est la femme de Bloom, Molly Bloom, qui est un personnage connu du monde entier. Même si on n'a pas lu le livre, on a entendu parler de Molly Bloom, qui, le dernier épisode, c'est, je crois, cinquantaine de pages. Et il y a que, je crois, 8 points. Et donc, c'est des phrases. C'est Proust XXXL. Et elle est au lit. Et elle laisse dérouler. Elle laisse dérouler les pensées, toute son histoire, ses pensées, etc., etc. Et le dernier mot du livre, c'est oui. Oui. Les 800 pages terminent avec oui.
Yes. C'est
quoi?
Yes.
Oui.
Oui, yes.
Yes. Oui, c'est en. Mais en français, c'est aussi oui, mais en anglais, c'est yes. C'est la totalité. Elle incarne ça. Bloom incarne plutôt le relatif compassionné et Stephen plutôt l'absolu qui est un peu perdu dans l'absolu. Hein. Pas très en contact avec son être. Il s'habille un peu n'importe comment. Il s'occupe pas de ses soins. Il a des dents pourries. Il souffre. Etc. À une époque, j'étais vraiment branchée ce livre et j'avais fait beaucoup, beaucoup d'enseignements autour. Je ne sais pas si des gens étaient dans les parages à cette époque. Non, personne n'y était à cette époque. C'était avant. Alain y était. Alain a entendu parler de ça, mais de longueur de journée pendant des années. Et avec compassion, en disant oui. Oui, Amy, oui. Et donc, sur le blog, il y a plein de textes là-dessus qui expliquent ce que je raconte là. Donc, si vraiment ça vous dit, vous pouvez chercher ça. J'avais fait une conférence à Lisbonne, non, à Porto, là-dessus, avec traducteur, je n'ai que dire le nom et vous allez comprendre, José Eduardo. Et c'était épique. Parce que José Eduardo a tendance à beaucoup parler. Mais qui était aussi très, très intéressé par le sujet. Donc voilà, ça c'est un exemple de Joyce qui fait ça merveilleusement avec rien. Trois personnages en 1904 à Dublin, en 24 heures. Mais c'est parce que c'est présent à chaque instant dans toutes nos vies. Toutes les vies de tout le monde sont on manifeste ça à chaque instant. On ne le voit pas. Parfois on le voit, parfois non. Et parfois, il y a un aspect qui prend le dessus sur l'autre, et c'est là où on voit tous les délires de notre monde, complètement, mais délirant. On a eu un petit aperçu dans notre Samu meeting l'autre jour, oui, c'est ça. Mais c'est quand l'unité n'a pas été vue, n'a pas été expérimentée, que toute cette horrible violence et agression et consommation, et c'est là, ça prend le dessus quand on n'a pas vu. Cette, expérimenter cette unité de toutes choses. On a perdu le contact avec cette verticale. La verticale est là, hein, quoi qu'il en soit.
J'ai une question.
Oui.
On a aussi parlé de l'être, être dans l'instant. Est-ce que je peux m'imaginer que l'instant est aussi cette verticale? Parce qu'il y a cet instant, mais il y a le prochain, et le prochain, et le prochain, et le prochain. Et j'ai du mal à expliquer. Quand je suis vraiment dans l'instant, je suis dans l'éternité. Ce n'est pas instant après instant, c'est être vraiment présent, présentement. Et en même temps, tout change. En même temps, c'est l'impermanence, il y a voilà. Et j'arrive pas à voir comment les deux s'articulent. Mon cerveau, il n'arrive pas à concevoir ça.
Oui, le cerveau ne peut pas la concevoir.
Non, c'est bien ce qu'il me semble.
Non. Je dirais que qu'est-ce que tu avais dit? L'instant, c'est quoi? Quel est ton terme?
L'éternité. L'éternité. Quand on est vraiment dans l'instant, vraiment, on est dans tous les instants. On est dans l'éternité.
Oui, le fait est qu'on l'est toujours. C'est pas qu'à un moment, on l'est, et à un autre moment, on l'est pas. C'est qu'on n'expérimente pas ça. À certains moments, on n'expérimente pas du tout. On est vraiment... il reste 10 minutes... quand est-ce que la cloche va sonner, il faut regarder combien de temps il faut cuire encore, il faut mettre à bouillir l'eau, parce qu'il faut garder, on a besoin de ça, hein. Sinon on ne va pas manger, si Claudia ne s'occupe pas de ça. Mais c'est l'éternité, ça aussi. C'est toujours éternel et hors du temps.
Et en même temps, ça, c'est impermanent.
Tout est impermanent, oui, ça change tout le temps, oui. Oui, oui. À un moment, notre vie est en train de changer tout le temps. Notre corps, je ne me souviens plus combien de cellules meurent chaque... c'est 54 millions, je ne sais pas, de cellules qui meurent à chaque instant, chaque moment. Ou dans une minute, je crois, c'est un truc comme ça. Constamment, constamment. Sinon, on ne sera pas en vie.
Donc, est-ce qu'il y a l'instant qui est la verticale et l'impermanence, donc tout ce qui change tout le temps, ça serait la trame? Non.
Parce que le verticale, disons, la chaîne... traverse tout le temps. On ne peut pas le limiter à l'instant. C'est là dans les 10 minutes et c'est là dans l'instant, en permanence. C'est là dans ce qui n'est figé. C'est difficile de dire qu'est-ce qui est figé, mais un concept, disons. C'est aussi la chaîne traverse ça aussi. Mais l'esprit, non, mais on peut sentir ça, on peut le vivre, on peut le apercevoir avec le cœur qui est, comme on disait avec Sylvain ce matin, son nom Daishin. Shin dans le mot, dans chinois et japonais, c'est pas cœur et c'est pas esprit, c'est cœur-esprit. Nous, on n'a pas un mot pour ça. C'est curieux en Occident, mais on n'a pas un mot pour ça. Mais c'est avec cette Shin, cette cœur-esprit qu'on a, on ressent.
Comment tu traduis esprit en anglais aussi?
Mind.
Oh, so this is mind.
Okay. En français, je ne trouve pas un mot qui satisfait vraiment comme mind, mais...
Non, il
n'y
en a pas.
Non, faut, donc on dit esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Enfin, c'est le Saint-Esprit, hein. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit comme les doctrines catholiques l'entendent. Hein. C'est pas âme, soul, c'est mind. Pas ça, c'est mind. Mm. Oui.
Comment tu dis en anglais l'esprit discursif alors?
Discursive mind.
Ah, ok.
Ouais. Mm. Toujours mind, donc c'est ordinary mind, c'est Thomas, et original mind, c'est Adrien.
Au niveau du mot, j'ai bien compris. Donc, tu disais que sutra, ça veut dire couture en français. Enfin, en sanskrit, sutra oui. veut dire se traduit par couture en français.
Ou fil. Des fils.
Fils, d'accord.
Oui.
C'est que c'est la même étymologie, en fait.
Suture. Suture en français.
Suture, sutra, c'est ça. Okay. Étymologiquement.
Et je crois qu'aussi, c'est même plus complexe que ça, peut-être Alain, c'est ça, mais en sanskrit, je ne me souviens pas où j'ai su ça, mais ça veut dire, oui, ça, fil et couture, mais ça veut dire aussi quelque chose de juste, une parole juste ou un truc comme ça. Non, ça ne dit rien. Non. Bon. Quoi?
Je ne vois pas le terme sanskrit qui pourrait être.
Ouais, bon, je ne sais pas où j'ai lu ça.
Mais la suture, c'est aussi ce qui répare quelque chose qui est déchiré.
Exactement.
Sinon, c'est juste une couture. Mais la suture, c'est, en tout cas en français, une chose qui vient réparer.
Et en portugais, je crois que c'est ça aussi. In Portuguese, too, it's what repairs, what heals, right? You sew the skin together to heal it. Right. C'est ça, hein? Et c'est intéressant, ça. Que ça... se remet ensemble ce qui a été séparé pour le guérir. Et ça, c'est intéressant. Hein?
Mais ça laisse toujours une trace.
Quoi?
Ça laisse toujours une trace. Qu'on appelle cicatrice.
Oui.
Oui. Tu dis pas le... Awakened heart is a broken heart?
Oui, il y a un rabbin qui, quand j'étais à Auschwitz pour une retraite, nous disait ça, que le seul... non, c'est pas awakened, c'est entier. Le seul, the only whole heart, le seul cœur entier, est un cœur brisé.
D'accord.
Brisé. Donc, pour être entier, il faut avoir été brisé. Il faut... Exactement, c'est ça. Voilà, tout à fait. Tout à fait. À ramener les parties qui ont été séparées ensemble. C'est ça. Absolument.
C'est l'art du kintsugi, oui.
Exactement. C'est ça. Et on, dans le kintsugi, on met en évidence cette trace qui était. C'est vrai. Oui, Laurent.
Oui, je sais pas comment je vais m'exprimer, mais ça fait un mélange avec le fait de tisser. Il dit que notre place ou l'acte qu'on est à faire. C'est de tisser notre plus beau fil d'or pour arriver en fait à un tissage merveilleux. Et du coup, j'ai le côté zen a-t-il une représentation de ce tissage fini ou quel est le. Est-ce que tu parlais de bout de bois, de branches, de. Mais vu que tout se fait également, l'unité est déjà là, ce tissage, même si ce monde est assez terrible, tout le monde tisse, et on pourrait espérer un ensemble plus humain et avec plus de cœur, par exemple. Et du coup, le tissage n'aurait pas la même esthétique. C'est un peu emmêlé, cette chose-là.
Mais...
C'est
le cas de le lire.
Merci.
Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
Je dis c'est le cas de le lire.
Emmêlé.
Oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai que... En fait, nous, on est un tissage de toutes ces blessures, de toutes ces cicatrices, de toutes ces douleurs, mais aussi de toutes les joies, l'amour, de tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences, chacun. On est un tissage, l'être merveilleux, tissé avec tout ça. Et le monde, c'est de même pour le monde, avec toutes les horreurs, mais aussi toutes les fabuleuses beautés du monde qui forment ce tissu, ce tissage, qui sont tissés tous ensemble. Et on peut espérer, effectivement, et c'est... D'une certaine façon, c'est notre intention de cette pratique, c'est de tisser quelque chose ou tisser notre vie et la vie des autres et notre vie ensemble avec, je ne sais pas si c'est des fils d'or, mais avec ce qui fait moins mal, qui est moins dangereux, moins coupant, moins agressif, de faire le moindre mal avec notre tissage, d'apporter les fils qui sont, ils vont encore être plus beaux, hein, si on réalise, ils vont être peut-être encore plus irréguliers et plus fantastiques, parce que notre vie va être pleine et pas séparée de certains aspects de nous-mêmes. Comme le cœur brisé, c'est le kintsugi qui est une... La beauté est... on dit enhanced...
augmentée.
Quoi ?
Augmentée.
Oui, embellie peut-être par les choses moins beaux, disons, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça répond à ce que tu voulais dire.
Oui, ça...
Okay.
Je pense à cette phrase assez troublante, assez scandaleuse de Ramana Maharshi. Il y a un étudiant qui est là et qui lui dit, mais finalement, pourquoi les hommes sont-ils si souvent pires que les animaux? Et Ramana Maharshi répond, parce qu'un homme qui n'est pas illuminé par sa propre nature, autrement dit, qui ne connaît pas effectivement l'absolu, est pire que l'animal. Et donc ça, c'est vraiment une explication aussi pour plus les hommes vivent dans la séparation, plus c'est pire.
Plus c'est
pire.
Et peut-être qu'on peut dire pire que des animaux, parce que les animaux...
une forme limitée.
Exactement. Ils n'ont pas ils ne sont pas divisés par cette... par cet esprit que nous, on est divisé par cet esprit discursif, disons, pour revenir. Les animaux, ils ont une autre façon de vivre. C'est révélateur qu'on est la seule espèce qui détruit son propre habitat. C'est étonnant. On est en train de détruire notre habitat. Oui.
Je me disais aussi, par rapport à ce que tu demandais, Lolo, une forme de manifestation que ça prend, c'est ça aussi, nous, ici, quoi. Cette image m'est revenue dans le sens où aussi t'as fini, avant d'ouvrir la discussion, t'as fini en parlant de ce que tu tissais, toi, ou qu'est-ce qu'on tisse chacun, et clairement, ce que tu as tissé, toi, c'est ça aussi, parmi plein d'autres choses, évidemment. Mais je veux dire, on est là parce que tu as fait le chemin que tu as fait. Et, Et on reconnaît quelque chose de ça, chacun à son niveau, et donc on est là, mais ça émane... Enfin bon, c'est pas si simple, mais peut-être. Mais... Enfin, du coup, c'était juste pour dire que... Ben oui, voilà, un exemple de tissage. ça devient, c'est très... C'est très... Enfin, c'est nous, quoi, finalement.
Et ce tissage, peut-être si on reste avec cette métaphore, moi je suis le fil vertical, mais vous êtes les fils horizontales. Sans vous, il n'y a pas de tissage. Hein.
Oui, justement, j'avais plusieurs images comme ça qui me venaient, mais je n'ai pas cherché trop à élaborer, justement, le questionnement de savoir est-ce que du coup, là, dans cette image, on peut dire que toi, si tu t'essaies de rester dans une tension entre les deux, bon, et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, on peut utiliser une image de justement la structure qu'on crée dans une retraite par exemple, parce que clairement j'ai la sensation qu'il y a un croisement entre cette structure et nous qui on est tous individuellement, qu'on arrive avec toutes nos idées, pas tous nos trucs qui nous bougent. Et on essaie de se mettre dans cette trame-là et de rester un peu stable.
Exactement.
Quelque chose comme ça.
Exactement. C'est ça aussi. Oui. C'est une métaphore qui est très riche. Hein, qui... Et donc, c'est pour ça que bon, le vertical dans chaque retraite, c'est le même. C'est cette verticalité, régulier, pas de nœuds, on essaie de garder ça. Et chaque retraite, comme il y a différentes fils qui vont venir, et différentes, toutes les fils, c'est le lieu, les gens, le temps, la saison. Chaque retraite, c'est un tissage différent. Quoi.
Et en même temps, le tissage nous influence aussi.
On est affecté parce que c'est nous, on est le tissage aussi, effectivement. Oui. Oui, toi, peut-être, tu fais du tissage, non? Non, jamais. Sculpture, non. Uniquement.
Si, j'en ai fait quand j'étais ado.
Ah oui, ok. Oui. Oui.
Justement, c'est une des choses, je lutte avec ça beaucoup, le fait que la beauté du tissage n'est pas relatif, c'est pas à ce... seulement, je veux dire... Je ne sens pas que tout ce que j'amène est beau, en fait. Toute ma vie n'est pas belle. Je peux contrôler des éléments, mais la plupart, je ne contrôle pas. Et donc, je ne sais pas qui est ma question. Mais c'est vrai. Je crois, je peux utiliser ce mot, ce que tu dis. Mais même dans l'assise, dans la pratique de l'assise, je suis étonné par le fait que je sais où je veux aller. Je veux aller vers cet absolu. Mais en fait, je ne peux pas avec mon fil.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je ne sais pas. Parce que... Cet croisement, en fait, cette intersection des moments de l'absolu, d'être ici, mais aussi partout, ce mélange qui est juste merveilleux quand on l'expérimente. Je pense que j'essaie de dire trop de choses comme d'habitude. Est-ce que je peux... J'ai du mal à accepter que, même si tout dans ma tête peut-être, mais dans ma vie n'est pas beau ou belle, que je fais un beau tissage. Peut-être.
Tu essayes de voir ça? C'est ça? Tu essayes de voir ça ou tu...
Oui, j'essaie d'accepter ça, j'essaie de voir, j'essaie de...
Ok. Parce que cette idée, ce jugement que... ce que tu fais n'est pas beau, appartient entièrement à le monde relatif. Le monde absolu, le monde esprit original, absolument pas ça. Tout est parfait, tout tout est beau, tout est parfait, tout est complet, tout est entier. Donc cette pensée, les jugements, etc., que c'est pas beau, c'est entièrement relatif. Et c'est pas un problème, enfin, ça nous pose problème, parce que ça nous empêche de juste être. De ne pas essayer de changer, de ne pas... C'est un obstacle à accéder à cette expérience des choses telles qu'elles sont, l'esprit originel. C'est vrai. Et ça, tout ça, avec ce que tu luttes, etc., c'est un tissage aussi. C'est le tissage de qui tu es à cet instant-là. Et c'est parfait. Mais, et ton esprit relatif dit non, c'est pas parfait, je veux pas ça. Julia, tu veux ajouter quelque chose
oui,
à ce propos?
Oui. Parce qu'en fait, parce que de toute façon, moi, ce que j'entends, c'est que à peine on dit ça, de toute façon, c'est déjà plus valable puisqu'on est déjà dans l'instant d'après. Donc, déjà, c'est plus valable, rien que le fait de l'avoir dit. C'est déjà plus ça, puisqu'on est déjà dans l'instant d'après. Mmh. Et ça me fait penser à ça. Et du coup, de toute façon, donc, le tissage est à venir, puisqu'il est en cours. Le tissage est en cours. Et donc, voilà. Et du coup, le fait de parler, déjà, on est dans l'instant d'après. Donc, c'est déjà plus valable. Et dans le bon sens, c'est-à-dire que de toute façon, on est déjà quelqu'un d'autre. Dans cette seconde-là, je parle, mais pourtant, je suis déjà quelqu'un d'autre. Je suis déjà celle qui avance, en fait. Enfin... qui avance, non c'est pas avance, mais en tout cas en cours, c'est en cours. Et je pense à ça parce qu'aussi tu disais tout à l'heure, pour moi c'était très fort quand tu nous rappelles à quel point toutes ces cellules qui meurent tout le temps. Et pour moi c'est bizarre parce que la séchine, ça fait un peu ça, ça fait comme un accélérateur de particules, c'est-à-dire que je pense que pendant les séchines, les cellules en plus, elles meurent encore plus vite. J'ai ce sentiment que c'est un accélérateur de...
C'est que ça va
vite, en fait. Moi, c'est ça que ça me fait ça, en fait, la séchine, c'est que ça va encore plus vite. Ils sont tous en train de mourir, là. Et du coup, je suis encore plus nouvelle que jamais.
Ah, ok.
Oui, c'est dans ce sens-là. du coup, je voulais juste dire ça. En tout cas, ça me fait penser à ça quand on parle de tissage. C'est que bah, de toute façon, il est en cours. On est en séchine, donc il est particulièrement en cours. Ça va à toute bombe. Et que de toute façon, voilà, on est déjà dans l'instant d'après.
Et parfois, revenir à la terminologie de Dale, c'est pas bon ce que je fais, ou je sais pas, ça nous accompagne à travers les instants. Et on est imprégné par ça, ou on s'accroche à ça, je sais pas comment on veut le dire. Et le séchine, pour revenir au truc de particules, ça peut nous donner la possibilité, c'est plus intense, disons, notre. C'est curieux de le dire, parce que en fait, ça ralentit. Tu dis que ça accélère, mais peut-être ça accélère le ralentissement, je sais pas. Et ça approfondit juste être ici maintenant avec ce qui est, qui pouvait pas semble en oh non, je dois m'enfoncer dans ce que j'aime pas. Mais en fait, il y a d'autres choses qui se passent. Mm-hmm. À travers tous ces instants à s'asseoir. On se lâche un peu ces trucs.
Mais ça laisse, la vie laisse des traces. C'est pas,
oui.
Et pas simplement. Si c'était que sur moi, je serais beaucoup plus tolérant, en fait. Quand je vois le dégât que j'ai fait autour de moi, dans ma vie, c'est difficile. Hein. C'est difficile pour moi.
C'est pour ça qu'on fait ce chant le matin.
Oui.
Quand on dit. Je fais le vœu. Non, qu'est-ce que. Toutes les souffrances. En anglais. Quoi ?
Toutes les souffrances.
Oui, toutes les souffrances que j'ai créées.
Depuis le temps, sans commencement.
Oui. On ne peut même pas les mesurer.
Il faut parler trois, hein. Le corps, la parole et l'esprit.
Exactement. On parle tout. Et maintenant, bon, c'est. J'aime pas du tout ce mot en français. Maintenant, je m'en repens.
Mm-hmm.
c'est un peu, c'est en anglais, c'est bien, c'est I atone for it all. Atone, c'est at one, d'être un avec. Atone, atone, A T O N E. Et c'est en fait, c'est at one. C'est suturé, c'est de mettre ensemble.
Je les inclus.
C'est ça, j'inclus. C'est ça.
Je own les traductions.
Quoi ?
C'est temps qu'on revoie les traductions parce qu'il y a plein de problèmes partout.
On a essayé. Ça fait 30 ans qu'on a traduit ces textes et on a essayé de changer, de repentir. Mais en portugais, it's not so good either, I think. Atonement in the morning, the chant. It's like repentir. It's like a Catholic thing. I mean,
yeah.
I don't know what it is. Mais c'est ça. C'est ça qu'on fait. Je reconnais ce que j'ai fait. Je reconnais. Et je, oui.
Est-ce que ça comprend, je me pardonne?
Oui, sauf que le pardonner a aussi un truc.
Il faut débiter.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est très chargé.
C'est ça, c'est très chargé.
Forgive.
C'est peut-être qu'en hollandais, il y a un mot, je ne sais pas.
C'est comme forgive.
C'est quoi?
C'est comme forgive.
Ah, c'est comme forgive, ok.
Ce qui est important dans « Je me repens », c'est que je ne peux pas me repentir si je n'ai pas la conscience de...
De ce que j'ai fait.
Et c'est ça qui est important.
Et c'est ça, il faut prendre conscience de ce que j'ai fait. Pas pour se fouetter. C'est ça un peu, repentir, c'est un peu cette... c'est pas ça.
En fait, je pense que le double sens de repentir, il est culturel. En fait, je pense qu'à l'origine, le mot repentir, enfin, en tout cas pour moi, il n'a pas cette connotation.
Probablement.
Mais qu'en fait, après, elle vient à cause de une certaine
culpabilité
de la religion catholique.
Parce que pour toi, à l'origine, repentir, c'est quoi?
Non.
Ce serait intéressant de savoir ce que c'est l'étymologie de ça.
C'est un acte
repentir.
Est-ce que ça vient de pente?
Oui. Oui, c'est intéressant.
De penser.
Oui, je ne sais pas.
En portugais, il y a assumir. Assumir.
Assumir.
En français,
assumer. Je l'assume.
Bring it all.
Oui.
Ah.
It's like in English, I own it. Oui. C'est un peu comme ça.
Oui. En tibétain, c'est plutôt assumer.
Oui.
C'est, je reconnais.
C'est ça, c'est cette notion-là. Et donc, d'ailleurs, c'est ça. Je le reconnais, mais je ne me culpabilise pas pour ça. C'est fait, c'est ainsi. Et je ressens, je ne me sens pas bien vis-à-vis de ça. Et je fais le vœu de ne plus le faire. Ou j'ai l'intention de ne plus le faire. J'ai vu ce que j'ai fait, j'ai vu ce que j'ai causé, des souffrances, des dommages. Je dis, peut-être la prochaine fois, je vais faire autrement.
Je vais le voir.
Je vais le voir, oui, c'est ça. Pour pouvoir justement réparer.
Ah, j'ai l'impression, pardon, j'ai l'impression qu'il y a le relatif qui est dans ce tramage avec l'absolu, mais que le relatif voudrait devenir absolu. Mais s'il devient absolu, il n'y a plus de tissage.
Il n'y a plus de
motif. En fait, à la base, il y a comme une volonté qui nous motive, qui est complètement impossible. Il faut endormir ce relatif, du moins arriver à ne plus être, pour goûter à l'absolu, mais de toute façon, en restant dans un certain relatif. Cette perfection, il n'est pas dans le relatif, il est dans l'absolu.
Et quand on a réalisé les deux, comme tu dis, et c'est vrai qu'il y a ce temps... Il y a quelque part dans ce relatif qui sait que sa nature est absolue. Hein. Qui sait, quelque part. Et donc, il essaie de tendre vers ça. Maladroitement, difficilement, avec des échecs, etc. Mais une fois que c'est réalisé, ils sont plus deux. Ils sont un.
Et donc, ça fait de très beaux motifs aussi. De très belles couleurs et de très beaux dessins.
C'est ça, exactement. Qui ne dépendent pas des jugements relatifs parfois, il y a une harmonie parfaite, donc on dit, ah, wow, ça c'est super. Mais tout est beau quand on est informé par le relatif absolu. Absolu, tout est bon. Il est temps, non?
Je regarde. 29. Alors, j'ai le temps de dire un truc.
Oui, oui, vas-y.
Non, j'étais juste en train de me dire que peut-être qu'il y a justement des... C'est encore Lolo quand tu as dit ce que tu as dit là. Est-ce que, comme s'il y avait des systèmes culturels qui cherchent à se mettre à la place de l'absolu, justement, pas de se dire en fait, c'est pas l'absolu dont on parle, l'absolu en dessous avant, c'est ça, ce nouveau truc, c'est moi qui vous dis ce que c'est. Ce que je veux dire par là, c'est, je sais pas, un système totalitaire ou qui érige tout ce qui constitue cette trame, et en fait, évidemment, ça nous met dedans après, en tant que être qui vivent là-dedans, dans le sens où on hérite de cette trame et on a l'impression que c'est ça l'absolu, on doit live up to this, être à la hauteur de cette trame, alors qu'en fait c'est une construction d'autres humains avec des motivations pour le moins douteuses.
Absolument, peut-être. C'est exactement ça, et c'est qui ne reconnaît pas la diversité. Et concrètement, on voit ça aux États-Unis en ce moment, on élimine toute politique, toute formulation qui reconnaît la diversité. C'est très, très flagrant. Hein. Mais c'est ça, c'est exactement c'est ça. C'est totalitaire, fasciste, qui élimine la diversité, les différences, tout doit être pareil, comme moi. Ouais, c'est ça. Je crois que le temps, c'est cool. Ok, merci pour cette dernière mot de zen.